Bonjour à tous et bienvenue dans LEM, l'émission sur Radio Évasion. L'invité de la première partie de LEM est Louis Gilda. Si vous êtes un fidèle auditeur de Radio Évasion, vous reconnaîtrez la voix. Il nous racontait il y a quelques années les faits divers sombres et un tantinet inquiétant dans nos contrées, et dans le Finistère, et puis un petit peu plus loin d'ailleurs. Alors il continue à nous relater les faits divers d'hier et d'aujourd'hui. Louis Gilda vient nous présenter la deuxième partie de cette série Faits divers en Bretagne.
LEM, l'émission, l'émission, sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Les faits divers en Bretagne, il y a de quoi faire. Il suffit de tourner les pages de la presse quotidienne régionale pour s'en rendre compte. Rien que ce matin, tiens, on peut lire un plumeur frappé à coups de taser pour un téléphone portable. Oui, c'est peut-être un petit peu disproportionné, monsieur. Ou 180 contraventions graves pour un restaurateur en presqu'île de Crozon. J'aimerais savoir qui est ce restaurateur. Peut-être ai-je été mangé chez lui ? Qui sait ? Louis Gilda, lui, nous raconte tout ça et nous apprend plein de choses, parce que le fait divers, c'est aussi la chronique d'une époque. Bonjour Louis.
Bonjour, bonjour, bonjour mes amis.
Alors tu reviens avec un nouvel ouvrage, avec plein de faits divers mystérieux et rocambolesques. Est-ce qu'il y a un fil conducteur là pour ce 12e ouvrage ?
Non, pas vraiment. Moi, j'ai pas de fil conducteur. Je sais pas ce que c'est. C'est comme ça vient. C'est comme ça vient, ce que je trouve. Alors ça, c'est des choses, des histoires qui ont été diffusées sur une radio concurrente.
On peut dire.
Alors France Bleu Brésisel. Hein. Et donc ça, c'est, ce sont des chroniques que j'ai tenues pendant sur l'année 2018, puisqu'on est en 2019, on achève 2019. Et donc ça, c'est des chroniques de 2018. Hein. Voilà. Alors il y a un peu de tout, hein, mais bon, bah, c'est pas des choses très réjouissantes. Hein. C'est toujours des crimes, des meurtres, des assassinats. Et parfois, on trouve autre chose, comme ça, comme de l'espionnage, par exemple, aussi.
On y viendra. Mais il n'y a pas un type de crime qui revient en Bretagne, une spécialité bretonne en matière de crime ?
Non. Pour avoir sévi, oui, pour avoir fait à peu près la même chose en Périgord et en Limousin, non, on va retrouver à peu près les mêmes recettes. Et je crois que si on allait, je ne sais où... dans n'importe quel pays, on trouverait toujours à peu près les mêmes recettes. Il y a deux choses qui... Le crime, pourquoi ? Il y a deux grands sujets qui amènent au crime. Le fric et le sexe. Après, ça va dévier un petit peu, mais lorsqu'on va gratter, par exemple...
Quand il y a les deux, alors là, c'est...
Ah ben souvent, il y a les deux. Souvent, il y a les deux. Mais si on gratte, on dit « Ah ouais, mais il avait picolé. » Enfin, « il », parce que c'est souvent les hommes. Ouais, mais lorsqu'on enlève la picole, on va retrouver ça, l'argent ou le cul. Pour des choses crûment, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et ça nous remonte quand même à assez loin, puisque dans la mythologie judéo-chrétienne, c'est Caïn et Abel. On se souvient que l'œil regardait Caïn dans la grotte. Voilà, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose.
On les retrouve toujours, les coupables, à la fin de l'histoire ?
Oui, en général, moi, les miens, on les trouve, quoi. Des fois, il y en a qu'on trouve pas, mais enfin, là, j'ai pas traité de... Non, parce que j'aime bien quand il y a une chute aux assises. Si on le trouve pas, bah, il n'y a pas d'assises, hein, on ne sait pas, il y a non-lieu, il y a on ne sait pas quoi, mais moi je trouve qu'il faut que ça passe aux assises. Il faut qu'on dise qu'est-ce que c'est les assises, en fait. On va dire chercher la vérité. Non du tout, pas du tout, c'est pas ça. La paix sociale.
C'est-à-dire, la paix sociale, qu'est-ce
que c'est ? Prenons une affaire célèbre, l'affaire Sesnec. Sesnec, c'est un type qui n'avait pas bonne presse, hein, ni à Morlaix, ni chez lui, là-bas.
Ni à Plomodierne.
Ni à Plomodierne, et lorsqu'on parle de Sesnec, encore aujourd'hui, c'est pas bon. Et ni à Morlaix, nulle part, c'était un type qui était un procédurier, qui n'était pas très honnête, enfin bon. Voilà. Lorsqu'il passe aux assises à Quimper, donc en 1923, il est déjà jugé par la foule. Il est déjà jugé, il est coupable. Et en fait, le jury ne va qu'entériner ce que la vox populi clame sur tous les toits. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, la paix sociale, en quelque sorte.
C'est toujours le cas ?
Oh ouais, souvent, souvent, souvent.
Alors, pour revenir au titre du livre, moi j'aimerais bien qu'on explique un petit peu, parce que c'est le fait divers, on en entend tellement parler, on a tendance à résumer, on le dit en argot, hein, la rubrique des chiens écrasés, quoi. Mais le fait divers, c'est un peu plus que ça quand même.
Ben, c'est tout, hein. C'est le chien écrasé, c'est comme tu disais.
Mes exemples du matin, c'est du fait divers.
Ouais, ça c'est du fait divers, hein. Le restaurateur marron là, qui filait des produits pas très nets à sa clientèle. Ouais, ça c'est du fait divers, du petit fait divers, c'est voilà. Et puis il y a le gros, quoi, le lourd qui se passe dans le sang.
Hein, c'est dur de retrouver dans les archives des faits divers qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que j'imagine que c'est ce que tu dois chercher à un moment donné aussi, le fait divers. Il y a le fait divers classique, connu, mais à un moment donné, c'est bien aussi de trouver des petites choses qui seraient passées au travers des mailles de l'histoire, non ?
Oui, bien sûr, mais on n'en trouve pas, ça court pas les rues non plus, il faut fouiller, il faut chercher. Alors ça nous amène à ce que je disais tout à l'heure, cette affaire d'espionnage à Brest, dans les années 30.
Voilà, enfin, c'est plus que du fait divers, là. On est quasiment dans la rubrique géopolitique du télégramme de l'époque, quoi.
Ouais, la dépêche, ça s'appelait. Mais il y avait la dépêche d'un côté, et puis. Mais il y avait toute la presse nationale. La presse nationale s'y était attachée à cette affaire. Parce de Lydia Oswald. D'abord, Lydia Oswald, ça, c'est un nom. C'est un nom. Elle ne pouvait faire qu'espionne, cette fille.
Ou actrice.
Ou actrice aussi, bien sûr, mais là, elle ne pouvait faire qu'espionne. Et alors, qu'est-ce qu'elle faisait pour faire son boulot d'espionne au service de l'Allemagne nazie ?
C'est ça, parce qu'on est dans les années 30.
Dans les années 30, oui.
Elle a été formée à bonne école, si...
Oui, on ne sait pas trop quelle formation...
À bonne école, entre guillemets.
C'était une Suisse alémanique, elle était Suisse alémanique. Donc elle parlait allemand, elle parlait plusieurs langues, c'était une fille qui était cultivée et qui draguait essentiellement... les jeunes officiers de marine.
Dans le contexte des années 30.
Dans le contexte des années 30.
Ouais. Ils n'étaient pas fut-fut quand même, ces officiers de marine.
Ah
quand
si,
même,
pour mais attends c'était... Mais elle avait un charme fou, elle n'était pas vraiment belle cette fille, mais elle avait un charme fou. Et les types y tombaient, les officiers de marine, on en a eu deux, peut-être plus, mais enfin, il y en a deux qui sont où la carrière a été brisée, ils ont mal fini, il y en a un qui s'est suicidé, et puis l'autre, il est mort prématurément, mais ils étaient révoqués de l'armée, quoi. Ils ont été radiés des cadres, hein. Des gens qui étaient au premier grade, je ne connais pas très bien les grades dans l'armée, ni encore moins dans la marine, mais qui avaient l'équivalent d'un grade de lieutenant, quoi. Hein. C'était des jeunes, fringants, promis à un bel avenir, à finir amiral, va t'en voir.
Donc, ça se passe à Brest, il y a cette espionne allemande,
oui.
qui débarque à Brest.
Oui.
Et comment ils ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, il n'y a pas Anguissou Roche, c'est ça qui est fou, quoi.
Ben oui, mais c'est comme ça. Alors, bien sûr, alors c'était les services secrets de l'époque. On sait. Alors, elle était venue proposer ses services au contre-espionnage français.
Ah ouais, parce qu'elle a senti à un moment donné que ça tournait mal, quoi.
Non, c'était avant. C'était avant. Et donc, le contre-espionnage français lui a dit, bon, ça ne les intéressait pas, mais ça les intéressait indirectement, puisque...
Le contre-espionnage français avait remarqué sa présence,
voilà.
et en se disant, ça ne nous intéresse pas de ramener dans nos filets une espionne nazie.
Non, voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est après... Enfin... Attendez. Là, Alors, donc, ça nous intéresse pas, mais ça nous intéresse quand même savoir comment... ce qu'elle fait, ce qu'elle cherche, et pour qui. Parce qu'ils ne savaient pas qu'elle travaillait pour l'Allemagne. C'est venu qu'après. Elle aurait pu travailler aussi bien pour l'Italie. Hein, c'était même chose. Hein. Mais donc, c'était pour l'Allemagne. Et l'Allemagne, dont il y avait, à l'époque, Brest, c'était quand même là où étaient basés les fleurons de la marine, des bateaux à l'époque. Hein. Il y avait le Bertin, par exemple, qui était le croiseur le plus rapide au monde. Et d'ailleurs, ce Bertin, on va le retrouver dans une autre histoire, mais beaucoup, qui va venir aux assises là, en 2020, l'affaire Troidec.
Le trésor.
Le trésor Troidec. Et ça, on bifurque un peu, mais enfin, c'est pas grave. Donc, l'Émile Bertin, ce croiseur ultra performant, une vraie Formule 1 des mers, va être en 40, lorsque les Allemands sont à Rennes, le fric, les lingots d'or de la France sont au fort du Portzic.
C'est ça, c'est un peu la panique, on essaye de les mettre sur un bateau.
Alors,
pour fuir, quoi.
Pour fuir, pour emmener ça en Amérique, pour emmener ça de l'autre côté de l'océan. Et donc, on va charger le Bertin qui va partir, mais hop, dans la manœuvre, il y a une caisse, un sac, on ne sait trop, qui tombe à l'eau. Et bien sûr, les Allemands étaient derrière, les nazis étaient derrière, c'était pas le moment d'envoyer des plongeurs, on n'a pas le temps, on verra ça plus tard. Ce qu'il a fait, ce monsieur Troidec, le père, lui, qui était, je crois qu'il était plâtrier ou quelque chose comme ça, qui travaillait dans le bâtiment, il a eu vent de cette histoire, parce que ça, c'est une légende urbaine à Brest. Hein. Les vieux, enfin aujourd'hui, enfin, là, c'est revenu sur le devant de la scène, on n'en parlait plus, mais longtemps, moi, j'ai entendu parler de cette affaire quand j'étais enfant. De l'argent, des lingots d'or qui avaient disparu, des pièces d'or, après, ça prenait des proportions, je ne sais plus combien de milliards qu'il y avait là-dedans, qui était tombé à l'eau, qui avait été censément récupéré par qui, on ne savait pas. Et ce monsieur Troidec, là, plâtrier, a agrémenté cette légende urbaine à sa façon. Il a dit, ben moi, je sais où ils sont, je les ai trouvés dans une cloison, rue Vauban, je crois que c'est rue Vauban, à Recouvrance. On les a mis dans un loche, un côté, enfin, un petit appentis. Mais personne ne les a vus. Jamais personne n'a vu ça. Voilà, ça c'est un truc. Et d'or, je suis persuadé qu'il n'y en a pas eu. Et puis, après, on peut dire, mais les Troidec, peut-être, ils sont tombés dessus et ils ont négocié l'or. Mais comment ? Des gens qui sont pas des voyous, qui n'ont pas de réseau dédié pour la négocier, pour vendre cet or qui est estampillé Banque de France. Quand tu vas chez ton banquier avec un lingot d'or.
C'est de la purge là.
Appelle tout de suite, on l'envoie au ballon, hein, on l'envoie en prison, voilà.
Donc là, on a fait un lien entre Lydia Oswald, une espionne d'origine suisse, et l'affaire Troidec, et au milieu de tout
comme
ça, il y a un bateau, le Bertin. Donc du coup,
il y a deux bateaux.
Qui est l'objet de l'attention de cette espionne.
Oui, parce que c'est un bateau très rapide, c'est un croiseur, c'est le top du top de la technologie hein, marine, et donc, bien sûr, il va vite, et il lance des torpilles. Et elle est très intéressée par les torpilles.
Ça intéresse les Allemands.
Ben, bien sûr. Et puis oui, les Allemands, ils ont... On a pu le voir par la suite, une armée de terre et une armée de l'air très efficace, mais en marine, c'est un peu des nains, quoi. C'est des nains, il y a quelques cuirassés de poche, mais donc, eux, ça les intéresse de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, ces bateaux rapides et ces bateaux qui peuvent balancer des torpilles. Donc voilà, alors elle va se faire inviter à bord par ses amants, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux.
Faut croiser les sources.
Il y en a un.
Surfait bien.
Part en mer, et puis hop, elle retombe avec l'autre. Et puis donc, elle fréquente le Continental à l'époque, qui était le grand hôtel luxueux, enfin, qui est toujours.
C'est au-dessus de la guerre, non, c'est ça ?
Non, c'est Place Wilson.
Ah oui, un peu plus loin.
Enfin, c'est nouveau. Mais à l'époque, c'était la bonne adresse de Brest. Hein.
Et du coup, à un moment donné, elle va se faire attraper, cette.
Lieutenant de vaisseau, ouais, mais je cherchais les grades des gens, là, des deux. Oui, parce que quand même la sûreté est assez basse.
À un moment donné, il y a des infos qui vont sortir, ça va pas le faire. À un moment donné, il y a quand même procès, quoi.
Mais alors ils sont emmerdés, le procès. D'ailleurs, bon, on l'arrête.
Le procès a lieu dans le Finistère ou
oui, c'est... oui, à Brest. Tout le monde, le procès, il est comment l'armée, bien sûr, la marine va être très inquiète de ce procès, va être très inquiète. Elle va essayer de bloquer, dire surtout pas de vagues, surtout pas de vagues. Ça va nous faire du tort. Ben ouais, hein, une espionne qui vient farfouiller dans la technologie maritime française, c'est pas bon, quoi. Ça fait pas sérieux, quoi, vis-à-vis des Anglais surtout, hein, qui sont nos alliés quand même à ce moment-là. Et donc, alors, ça va passer, mais elle va être condamnée à peanuts, quoi. Elle va prendre...
Elle aura déjà fait comme c'est souvent le cas, elle aura fait sa peine en attente du procès.
Et puis elle va avoir une amende de 50 000 francs, je crois, de l'époque. Et puis, 8 mois de prison, enfin rien, quoi. Et alors, pendant l'aller en prison, au Bouguin d'abord, parce que la prison à l'époque de Brest est au Bouguin. Et après, elle va être à Pontagnou, prison maritime. Et là, elle va avoir la meilleure chambre de la prison. Elle va manger aux messes, ses repas.
Ce sera le quartier des célébrités de la santé, quoi.
Ouais, mieux que ça, puisque ses repas viennent du mess des officiers. Donc, elle est traitée aux petits oignons. Et même, il y a un truc, les journalistes de l'époque étaient un peu vachards. Et lorsqu'elle va aller, bien sûr, à l'instruction, on la sort de temps en temps, et les journalistes sont là, et il y en a un dans la dépêche qui dit « Ah, elle a l'air de bien se porter, elle a engraissé. » Elle a engraissé. Une jeune femme qui a 29 ans, elle a engraissé. Enfin, on aurait pu dire qu'elle a profité. Ou, enfin, engraissé, ça fait un peu porcin comme expression.
Ça manquait de tact.
Ah ouais, ça manquait de tact, ouais.
Dans ton ouvrage, c'est t'en restes toujours à la réalité. C'est jamais oui. Romancé.
Ah non. Ah
c'est
non.
La réalité factuelle.
Ah, c'est la réalité. Hein. C'est la réalité vraie. Hein.
Ce qui peut paraître hallucinant.
Il y a des choses, hein, mais il y a des choses. Mais ça, tu sais, le réel vaut mieux que toutes les fictions. Hein. Je vais pas raconter les histoires que j'ai eu à traiter lorsque j'étais en Limousin, mais je me souviens d'une histoire comme ça où il y a un couple qui découpe la belle-mère et qui la met dans des pots de peinture, les pots de peinture, tu sais, du bâtiment là. Hein, et puis ils vont couler du ciment par-dessus. Et puis la belle-mère va être envoyée dans un garage à Montluçon, parce que ça se passe à côté de Guéret, là, ce que je raconte. Ça n'a rien à voir avec ça, mais enfin, ça a toujours à voir. Et le temps passe, et puis la grand-mère, elle avait une pension, et eux touchent la pension. Voilà, l'argent. L'argent, la vieille était là, elle ne voulait pas donner de l'argent à ces bons à rien, ce couple de bons à rien. Mais on dit, y a une solution, il faut la zigouiller, on ne dit rien du tout, et on va continuer à empocher la pension. Ça tombait. Mais ce qu'ils avaient.
Mais oublié, la créativité aussi, du coup, s'impose aussi à de nombreux champs, et on ne pense pas forcément au crime.
On pense pas au crime.
Parce que là, le coup de peinture, quand même, c'est...
Parce qu'il avait que ça sous la main. Il avait que ça sous la main. Et donc, ils vont découper. Non, mais ils vont la découper. Ça a été mis dans 5-6 pots de peinture. Ils disent, allez, il y a la tête, là, on va mettre les bras, et là, on va mettre les jambes. Enfin, voilà, mais c'est morbide. Imagine un peu le type, ils sont deux, hein, il y a un homme et une femme, qui tient les jambes, je sais pas, et avec sa scie, parce que si, que ce soit circulaire, je crois que dans ce cas-là, il y avait une scie circulaire, et commence à démembrer la grand-mère. Et après, on vit avec ça, sans problème.
La vie continue.
La vie est belle.
Point d'interrogation.
On a plein. Alors, donc ça, et donc on l'a retrouvé. Alors, c'est pourquoi on l'a retrouvé, cette brave dame, enfin, en morceau, c'est parce qu'elle avait une vague cousine à qui elle écrivait tous les ans pour le nouvel an. Ah. Et puis, une année, elle fait pas, elle dit, tiens, je me souviens plus de son nom, tiens, Marie est malade, peut-être. Et puis donc ils appelaient, ils avaient le téléphone du couple là où résidait cette dame. Et eux, sans se démonter, ils disent mais elle est partie. Elle est partie avec un thermadji, enfin avec un forain qui passait par là. Il y a eu la fête à Guéret. Puis elle est partie avec lui. Là, tu disais, dame de bientôt 70 ans, on voit mal, mais après tout, hein, les démons de midi. Et puis. Et puis elle rappelait tous les ans, puis au bout de 3 ans, je crois au bout d'un temps donné, elle a dit aller voir les gendarmes. Elle dit quand même, c'est curieux. Je n'ai plus de nouvelles de ma cousine qui m'écrivait pas souvent, mais elle m'écrivait.
Elle refait
moi.
La peinture.
Ouais, elle refait la peinture. Et donc voilà, ça c'est un fait div, un peu les faits div saignants, quoi. Hein. C'est quand même quelque chose.
Alors, moi, s'il nous reste un peu le temps.
On peut.
Il y a un peu le temps, il y a un fait divers que, pour revenir un petit peu à la Bretagne, on parle là de meurtres sanglants, mais il n'y a pas que les individus qui peuvent être sanglants. On oublie que l'État a pu l'être jusqu'à un certain temps. Les exécutions publiques, c'était quelque chose de courant qui se faisait dans le Finistère, il n'y a pas si longtemps que ça.
Pas si longtemps, c'était...
Ça commence à dater un petit peu.
En 37, quoi. Hein. Ouais. En 37, c'était la dernière exécution publique. En 1937, ça s'est passé à Saint-Brieuc. Un sale type, hein. Un sale type, il a tué, violé une petite fille. C'est affreux, c'est affreux. Bon, on va, donc, mais après, il y a le... bon, il fait ça, c'est épouvantable, et après, derrière, il y a encore, encore quelque chose d'au moins aussi pire, on va le mettre sur à l'échafaud. Il n'y a plus d'échafaud, mais non, on faisait ça à l'époque, au ras du pavé, quoi, hein. Mais là, c'est public devant la porte de la prison de Saint-Brieuc.
Alors, quel était l'intérêt de faire cela sur la place publique, de montrer l'exécution?
Ça remontait à la nuit des temps, quoi. Puis c'était comme ça, c'était.
Les gens venaient.
Bien sûr, ça se faisait au petit matin. Et alors, mais ce qui était encore plus terrible, plus absurde, c'est que les militaires, les gendarmes, la police faisaient la chasse à ceux qui voulaient voir. C'est quand même extraordinaire, ça. Ça se déroulait au petit matin, 4-5 heures le matin, peut-être 6 heures. Hein, donc il y a tout le monde qui est là, il y a le proc, bien sûr, il y a l'avocat, les avocats, plusieurs avocats, il y a les gendarmes, il y a les machins, il y a tout le monde est là, et le public, ben, il veut voir, on fait fermer les fenêtres, on fait fermer les volets, faut pas qu'ils voient, on fait la chasse à ceux qui veulent voir, voilà. Alors bien sûr, des fois ça déborde, là ça n'a pas débordé, mais c'était la dernière, parce que en 1939, il y a eu une exécution publique, celle de Weidmann, c'était un Allemand, une sorte de tueur en série, et qui est exécuté à Versailles. Et là, c'était la fête. Tout le monde, les bourgeois parisiens, les noceurs parisiens étaient là. Les femmes trempaient leurs mouchoirs dans le sang du condamné après l'exécution. Ça portait bonheur, dit-on. Alors là, l'État a dit, bon d'accord, terminez le public, terminez les exécutions publiques, on va faire ça derrière les murs de la prison et on dira rien. C'est encore plus... Non, c'était... Je sais pourquoi exécution. C'est la loi du talion. T'as tué, je vais te tuer. C'est ça. Mais ces gens-là, ils n'ont pas le gars là, qui a tué cette petite fille, le Lucien Boulet en question de Saint-Brieuc. T'es un personnage inquiétant, un personnage qu'on n'aimerait pas rencontrer, quoi.
Donc ça, c'était la dernière. Mais en Bretagne, c'était la dernière exécution.
Ça a été la dernière. Est-ce que c'était la dernière en Bretagne? Je ne sais pas. Il y en a eu aussi une dans le Finistère, à peu près aussi.
Dans le Finistère, ça se passait aussi bien à Brest qu'à Quimper?
Ah non, Quimper.
C'était à Quimper.
Ah, Quimper. Ah, le siège de la juridiction, c'est Quimper. Hein. Il n'y a pas d'assises à Brest pour l'instant.
D'accord.
Hein, on en parle. Mais enfin, pour l'instant, tout se passe à Quimper. Et les exécutions se passaient devant la prison Metz-Gloagen, qui est à Quimper, qui a été désaffecté, là, qui a plus de prison, je sais plus. Et donc, ça se passait là devant. Et alors là, les gens montaient dans les arbres pour voir bien, pour voir ce qui se passait. Et puis voilà. Et puis, c'est terrible parce que cette exécution, celle, la dernière de Quimper, là, c'est un pareil. Il y a une histoire d'argent et une histoire de sexe. Donc, et ce type-là, vraiment, c'est le type aussi, quoi.
Et ça, c'est dans le premier ouvrage. Si je ne me trompe pas.
Ouais,
elle est évoquée dans le premier ouvrage.
Ouais. Et donc, ce monsieur-là a été exécuté. Et donc, on voyait il y avait la troupe à l'époque à Quimper, les soldats qui étaient mobilisés, les gendarmes, les policiers, les machins, pour faire la chasse à ceux qui voulaient voir.
Pour revenir au deuxième tome là, qui est sorti tout récemment, il y a des choses qui se passent au début du 20e, mais aussi des histoires beaucoup plus récentes, même du 21e.
Ouais.
Si on peut évoquer très rapidement pour terminer cette émission, ce qui s'est passé du côté de La Baule.
Ah oui.
Les histoires, les coups foirés, ça t'intéresse aussi?
Ben oui, parce que là quand même, oui, ben enfin foireux, celui-là il a pas foiré parce qu'il y a deux morts. Quand
c'est
même.
Ça. Mais il a loupé son premier objectif. C'est plus tard que c'est ressorti.
Ben voilà, c'est l'histoire d'un type de droite extrême. comme ça, de droite extrême, qui se met dans la tête, poussé par sa mère, de devenir conseiller général du Croisic. Non, je crois que c'est le Croisic. Et il avait été viré du GUD.
Ah,
le oui. GUD, un groupe Union Défense,
c'est
hein,
une milice d'extrême droite.
Ouais, voilà, des étudiants d'extrême droite. Hein. Et donc, il a été viré pour, parce qu'il est devenu dangereux. Alors déjà, le GUD qui vire un gazier comme ça parce qu'il est dangereux, t'imagines ce que c'est. Oui, tout simplement, il avait imaginé, parce qu'il y avait les coups de poing, c'est avec l'extrême gauche, quoi. Hein, ils ont leur frappadingue et l'extrême droite a ses frappadingues. Et lui, il a dit, ben, écoutez, pour gagner la partie, on va faire des mini-bombes. Et on va leur balancer ça, comme ça, et puis y en a un ou deux qui restera sur le tapis, c'est pas grave, ils sont d'extrême gauche. Bon, voilà. Donc le GUD a dit, hop, halte là. Il va passer ensuite au FNJ, Front National de la Jeunesse, la succursale jeune de chez Le Pen. Et là, il veut être le patron du FNJ, donc il est là, il a un petit, il doit être président de secteur, un truc comme ça. Mais il veut la première place. C'est Maréchal, le gendre de Le Pen, qui la tient. Et Maréchal lui a dit, il faut que j'ai sa place. Je vais d'ailleurs le tuer. Je vais faire un attentat à sa porte. Alors là, on le vire dehors et il arrive à La Bolle parce que à La Bolle, en presqu'île de Guérande. Il a, parce que la maison, c'est une famille bourgeoise, hein, issue d'une famille bourgeoise, type qui a loupé ses études, qui a tout loupé, et qui, il y a une maison qui est là, et il va voir le CNIP, le Centre National des Indépendants et Paysans, un vieux parti de droite extrême.
Traditionnel,
de droite-droite, hein, bien de droite. La patronne là-bas s'appelle Madame du Rosquat, hein, enfin comme ça, là, bien. Et donc, il va se faire adouber par ce parti-là, qui est content, parce qu'il y a que des vieux là-dedans. Et donc, il se fait adouber, et donc, il devient la figure montante. C'est un jeune gars, il a une vingtaine d'années, 20, 25, 26, 28 ans, 29 ans. Et donc, il y a des élections cantonales qui se profilent, et lui va prendre à sa charge tous les affiches. On va voir sa tête partout, 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 partout. Si bien que Christophe Priou, le conseiller général en poste, dit, halte là, quoi, faut arrêter, quoi. Et il colle des amendes. Il est maire aussi, donc il colle des amendes. Et là, il va dire, faut que j'ai la place de Priou. Pour avoir la place de Priou, je vais le tuer. Là, c'est simple. Hein.
C'est simple, mais pas recommandable dans un contexte de démocratie.
Non, mais sans lui, la démocratie, il en a rien à fiche. Et donc, ils vont préparer avec ses copains, ils sont quatre dans l'histoire. Ils vont monter un stratagème autour d'une chaîne stéréo, qui était, semble-t-il, offerte par un fournisseur du CICAPG, c'est le syndicat, le CIVOM de là-bas, hein, le CIVOM de la presqu'île de Guérande. Et ils vont mettre une bouteille de bière, enfin pas une bouteille, un fût de bière avec de ce qu'on met là pour désherber les jardins et du sucre, hein, du nitrate et puis du sucre. Et puis après, il n'y a plus qu'à brancher et puis ça pète. Hein. Voilà, c'est ça.
Et donc, Sauf que ça marche. C'est la cible. Une bombe à retardement.
Donc, il trouve ce paquet avec une chaîne stéréo un peu dépassée, mais. On met ça dans le bureau de Christophe Priou, le président du CICAPG, du CIVOM. Et Christophe Priou voit cette chaîne et dit « Bon, ben, c'est un vieux truc, je donnerai ça à une école ou une maison de retraite. On met ça dans un coin. » Sauf que, et ça reste pendant 6 mois comme ça, personne ne s'en occupe. Jusqu'au jour, il y a un départ en retraite à la fin de l'année au CICAPG. Et donc, il y a un gars qui est là, qui en général s'occupe de tout ça, de l'intendance, les bouteilles, les petits fours, les trucs. Et il va dire, mais s'il y avait de la musique, ce serait bien. Il va chercher la chaîne, il va la brancher, tout va exploser, il va être déchiqueté, le pauvre homme. Et le comment, le bâtiment est à moitié soufflé, voilà. Voilà. Alors, et en plus, derrière, ce type-là qui avait conçu ça, il va tuer son collègue qui lui avait donné un coup de main à faire cette bombe-là, parce que l'autre le faisait chanter. Il avait dit, ouais, il avait deux fers au feu. Il dit, bon, tiens, si j'ouvre, si j'envoie une lettre au flic, là, peut-être que t'aurais des ennuis, alors donne de l'argent, et puis donner de l'argent. Ouais. Puis voilà, il a pris. Lui, il n'a pas pris 30 ans, il a pris 27 ans, je crois. En deux fois 27 ans, confusion des peines, il fera pas.
Homicide involontaire.
Non, voilà, voilà, ça c'est des. Ouais, c'est des choses bizarres. Les hommes sont de drôles de gens. Les gens sont de drôles de gens, je crois. Des fois, dans ces affaires de crimes, de meurtres et d'assassinats.
Eh ben, voilà. Merci beaucoup, Louis, d'être venu jusqu'à nous pour nous raconter, pour un petit peu présenter ce deuxième ouvrage, deuxième saison des chroniques radiophoniques de France Bleu Brésisa, Le Fait d'hiver en Bretagne. Et il y aura un troisième.
Je sais pas. Oh, on s'en lasse à la fin. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas d'actualité.
En tout cas, faut se saisir du deuxième. Merci beaucoup,
Louis. Oui, merci.